Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous. N'est-ce pas qu'entre nous, on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui « Le secteur public est-il attrayant pour nos jeunes? S'y trouve-t-il? Qu'en pense-t-il ?» En attendant de donner la parole à mon invité, Esnal Rzouani, jeune ingénieur de 31 ans, travaillant dans le secteur public, je vous fais part de mon édito. À se pencher le nez en avant sur les bruits de couloir et d'autres au bon vouloir de notre filtre bon fouineur, bon ménager, si tant est qu'il puisse sous sa seule lanterne disqualifier un tapage obnubilant au profit d'un bruit issu de la mêlée mais porteur de sens. À vue d'œil et sans lanterner, il en sort chemin faisant que le secteur public serait endiablé de la cape qu'il traînaille derrière sa marche tonitruante des miséreux de ces petites gens qui se borneraient leur bout du nez au peu qu'on dès leur accolé de ces quidam routiniers affriolés par le verbe ou sous-verbe à votre guise, stagnés. De ces citoyens qui se suffisent à leur pas butant contre la marche récalcitrante, debout sur leurs aises ou leurs peines inhibées par l'utile ou le nécessaire. De ces bonnes gens dont le trait tranche d'avec la cupidité, le superflu ou nous mettons d'autres. Mais il en est d'autres, des battants, des acharnés, qui se suffisent un temps et leur ego et leur fâcherie voyante à leur piètre position électrique, mauvaise hôte, occupée à regret et à contre-poche par ce salarié qui s'échine à dérégler le court train-train et tu là. À forcer le contingent d'un revenu gras, d'une carrière au train agile, évolutif, non celui grincheux et grinçant à vous en serrer les nerfs, de ces salariés frustrés, prêts à verser leur joug, fait d'aigreur et de nonchalance, dans le secteur voisin, rival, réputé, à tort ou à raison, pour son dynamisme, son ouverture, ses opportunités en nombre, à même d'insuffler le nécessaire au tracé d'une carrière. Un secteur qui se sert aux besoins, sans vergogne, dans le lot disparate, dispersé, des têtes les mieux faites et d'autres. De ces salariés qui jugent du haut de leur ire que la fuite des cerveaux se composait de mots consommés à satiété, réchauffés à l'aune du sacré, déclinés en statistiques, serait d'abord une affaire interne, que ce secteur public, sujet de plainte, ne peut qu'œuvrer en sous-capacité, eu égard du capital humain, s'il ne change plutôt que prépare le terrain pratique, ne compose avec les doléances en genre et en nombre de ses salariés. Vérité aux préjugés. La situation est-elle du même ordre de grandeur que celui qui jaillit sous notre plume? Le salarié est-il mal en point? Souffre-t-il en silence? Se donne-t-il plutôt en spectacle quand il s'agit de conjuguer sans mal à la rigidité d'un contexte sourd à ses doléances? En fait-il part à qui de droit? Se plaint-il de son salaire, de l'évolution d'une carrière qui peine à décoller? Le charge-t-on de plus qu'il ne doit? Et si tant est qu'il persistait à dénoncer à ce que, pour lui, sonne comme injustice, l'écoutons, que lui dit-on? Enfin, quelles sont ces entraves qui mériteraient d'être levées pour qu'un jeune salarié ne déserte pas le secteur public? En clair, que faut-il changer? Nos responsables sont-ils sensibles à ce sujet? Sinon, que vaut ce secteur privé qu'on en sense tant, qu'on juge meilleur? Avec nous aujourd'hui, Esnal Rzouani, jeune ingénieur de 31 ans, travaillant dans le secteur public. Par souci de discrétion, l'on va passer sous silence la société en question, pour laquelle travaille notre jeune invité. Esna, on vous souhaite la bienvenue. J'espère que mon édito, comme à son accoutumée, n'a pas traîné en longueur, ne vous a pas chauffé l'oreille jusqu'à vous assommer. Alors Esna, une petite présentation pour vous rendre familière de nos auditeurs, auditrices, que j'espère être au rendez-vous de ce sujet qui, à mon sens, fait feu de toute discussion pré-embauche, de nombre de vis-à-vis, de rencontres du dimanche, de semaine ou d'autres fortuites. Bref, un sujet qui dresse ce contraste public privé. Avant de donner le là à notre entretien, veuillez donc nous donner un petit aperçu sur votre personne.
Bonjour Riche, merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que c'est une bonne initiative que d'inviter les jeunes et d'écouter leurs doléances et de faire remonter les problématiques. Je vous en félicite pour ça. Donc voilà, je suis El Rzouani Hesna, je suis ingénieure d'État en génie industriel et productique. J'occupe depuis 8 ans le poste de responsable qualité dans une entreprise publique. Je suis plutôt dans une direction IT, donc je m'occupe des projets de mise en place de projets de certification ISO, si vous en entendez parler.
D'accord. Alors très bien. De retour à mon édito, de ces idées qui se sont profilées, bon gré mal gré, qui prétendent être la vox populi, n'est-ce pas, faites de bruit de couloir et d'autres, d'un rendu meilleur, à point qui ne dérange en rien notre oreille tendue à tout ce mal nécessaire, à ce pôle général, sans pour autant être pointilleux. Pensez-vous à cela que le salarié, partant de votre statut, est si mal en point que ce mal relève plutôt de la vérité que d'un simple préjugé que l'on doit s'affairer à abattre? Dites-nous tout, vérité ou préjugé?
Hicham, pour cette question, je dirais que ça dépend des personnes, en fait. Donc, chaque personne, toute personne a des ambitions différentes, a des aspirations différentes. Il y en a pour qui le secteur public représente un refuge, de point de vue sécurité et stabilité. Pour d'autres, plus ambitieux, qui cherchent à se challenger, à sortir de leur zone de confort, ce n'est pas... It's not the place to be, comme on dit. Mm-hmm. Donc, voilà, donc, ça dépend, c'est des choix personnels et ça dépend de chacun comment il voit les choses et comment il voit décoller sa carrière. Il y a des gens qui se suffisent dans le secteur public, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à se challenger ou bien ils ne cherchent pas de sortir de la nouveauté. Ils se trouvent dans la routine, comme on dit. Et d'autres plus ambitieux, je pense que pour eux, ça serait mieux qu'ils cherchent autre chose où ils puissent s'épanouir davantage.
D'accord. Voilà. Alors, si tant est que cela soit une vérité, on ne va pas vous l'ôter, nous sommes ici dans un monde de libre expression, vous avez le droit de dire votre cœur, de l'appuyer par la force de vos arguments. Dites-nous, d'après cette expérience qui est vôtre, le salarié souffre-t-il en silence, dans son coin? Peine-t-il à remonter ce cri de cœur, acquis de droit? Ou y a-t-il un début à tout, que ça commence d'abord par prendre sur soi, encaisser le nécessaire et plus, avant que de frapper à la porte de son supérieur, lui faire part de, avec le respect qui se doit bien sûr, de ses doléances? Quand je dis souffre-t-il en silence, je fais allusion aux séquelles, entre autres psychologiques, à la frustration, à la dépression ou autre. Alors souffre-t-il en silence? Sinon, quelle est cette démarche qu'il fait sienne pour lever tout ce mal?
Alors pour cette question, Hicham, j'ai d'abord décrire le secteur public, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur public est régi par des lois, par des procédures très rigides, donc à tous les niveaux hiérarchiques. Et donc même les responsables, quel que soit leur niveau de responsabilité, ne peuvent agir. C'est-à-dire ils n'ont pas une marge d'action élevée. Même avec la volonté du monde, ils ne peuvent rien faire. Donc pour revenir à notre question, est-ce que le salarié souffre? Oui, je dirais qu'il souffre parce qu'il se retrouve dans un système lourd. Il se trouve dans un système lourd où la marge d'action est très limitée. S'il a des problèmes, s'il a des doléances à faire monter, il peut le faire. C'est-à-dire, il a le droit de le faire à son supérieur, à son manager. Mais malheureusement, je pense que les managers, ils sont limités. Ils n'ont pas... Ils peuvent pas... C'est-à-dire, ils peuvent pas nous trouver des solutions à tous les problèmes. Parce qu'eux aussi, ils sont limités par la budgétisation, ils sont limités par comme je vous ai dit, les lois qui sont en vigueur. C'est-à-dire, il faut toujours se conformer aux lois. Il faut toujours se conformer aux procédures. Et... voilà, donc c'est vrai que ça pousse le salarié à être démotivé, à ne pas se sentir bien. Des fois, ça frôle même la dépression, surtout quand il n'est pas écouté. Mais c'est vrai que je dirais que les managers, ils essaient de leur mieux de trouver une solution à ces problèmes-là. Mais comme je vous ai dit, ça ne relève pas de leur statut. Voilà.
Alors très bien, votre réponse a le mérite d'être claire. Alors dites-moi, salaire, évolution de carrière, il en est de ceux qui rabattent ces deux critères tant criés, décriés sur les toits, et à raison, je dis ça, je ne dis rien, les rabattent donc sur le plan de la subjectivité. Cela vous avance qu'il n'est pas de ces critères objectifs à la règle qui puissent juger du mérite, du non-mérite, du bon et du mauvais salaire. Quelle est donc votre référence? Vous basez-vous sur le seul secteur voisin, privé en l'occurrence, pour vous situer? Et encore, cela prend-il sur la démarche, non pas que l'on professe, mais qui doit être de rigueur, pour ne pas dire scientifique, pourquoi pas, pour dire on est bien ou sous-payé? On évolue, on n'évolue pas. Alors, quels sont ces critères sur lesquels vous vous basez?
Alors, je vais vous donner mon expérience, c'est-à-dire mon vécu, à travers mon vécu, à travers ce que je vois, les collègues qui sont dans le secteur public et d'autres qui sont dans le privé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'administration publique, il y a deux types d'évolution. C'est-à-dire, il y a l'évolution administrative qui relève de l'ancienneté. Donc, ça dépend du nombre d'années d'ancienneté. Au fur et à mesure que tu deviens ancien dans le système, tu évolues. Donc ça, c'est un droit, c'est dans le contrat. Après, il y a l'évolution de responsabilité. Donc, tu peux évoluer si on t'accorde un poste de responsabilité. Dans les secteurs publics, par exemple dans la société dans laquelle je travaille, on n'a pas une évolution par rapport au rendement. Voilà. Donc, on n'est pas rémunéré à partir de notre performance ou de notre rendement. Non. Donc, soit on évolue à travers l'ancienneté, et si on aspire à un poste plus haut, on est censé normalement nous donner un poste de responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que si dans l'organigramme, il n'y a pas un service de responsabilité ou bien voilà, un truc qui est déjà écrit dans l'organigramme, on ne peut rien faire pour vous. Par contre, dans le privé, tu es promu et rémunéré selon ton rendement, selon ta performance. Donc là, si tu veux, ça reste un outil de motivation. Donc, plus tu donnes, plus tu travailles, plus tu fournis des efforts, plus tu te challenges, plus tu te formes, plus tu montes en compétences, plus tu es rémunéré, plus tu es récompensé, si l'on veut. Donc là, c'est le point qui est un petit peu délicat dans le secteur public. Donc des fois, tu te retrouves à ne pas être récompensé à ta juste valeur. Peu importe ton expérience, peu importe les formations, l'effort personnel que tu fournis pour remonter en compétences et pour donner le meilleur de toi-même, tu te retrouves peut-être avec un salaire, le même salaire que tu as eu dès le départ.
Voilà. D'accord, très bien. Non, justement, je vais rebondir sur votre réponse pour que vous puissiez m'apporter encore plus de précision. Alors, selon vous, le salarié, est-il écouté, pas assez écouté? Lui tendons d'abord le verbe avant la main, puis je puis vous accorder, avant même que vous rebondissiez là-dessus, qu'il ne suffit pas que d'écouter, mais c'est déjà un grand pas de fait, n'est-ce pas? Mais qu'il s'y est de répondre, de trouver un terrain d'entente, de prendre nos doléances au sérieux. Alors, concrètement, et sous peine de vous brusquer, d'être un peu trop direct, où en êtes-vous par rapport à cela? Puis j'estime que nos auditeurs, auditrices, tout comme moi, ont un appétit sincère pour les anecdotes. Alors dites-nous, où vous en êtes? Et si vous pouvez gratifier notre curiosité, que j'espère bienvenue, par une anecdote. Alors on va revenir plus en détail sur votre expérience personnelle que vous venez d'évoquer.
Je pense que cette question, il rejoint la question d'avant, dans le sens où... Même si tu fais des efforts pour évoluer, même si tu te challenges, tu es motivé pour travailler, ça ne va pas forcément avec le statut que l'on te donne dans la fonction publique. Donc, comme je vous ai dit, c'est vrai que si tu as un manager à l'écoute, qui essaie de te motiver à travers des formations, à travers des bonnes paroles, comme on dit, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, même nos managers, ils ont la main limitée, c'est-à-dire ils ont la main liée, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre parce que c'est une structure qui est ancienne, c'est des procédures qui sont déjà mises en place, c'est très limité, c'est très... voilà, donc c'est vrai que personnellement, j'aimerais bien évoluer dans ce que je fais. Après, comme je vous ai dit... si on n'a pas un poste qui est déjà créé pour toi, c'est difficile de le faire parce qu'il y a déjà le côté de budgétisation qui est important. Donc, on ne crée pas juste comme ça les postes aléatoirement. Ce n'est pas comme le privé. Dans le privé, le manager, il a un budget alloué à ça. Il peut, si quelqu'un ne travaille pas bien, il peut démissionner, il peut le renvoyer et lui payer son dû et ramener quelqu'un d'autre. Il peut créer un autre emploi, il peut rémunérer la personne selon son rendement. Donc, il a une certaine marge de manœuvre, comme je vous ai dit. Donc, dans le secteur public, c'est un peu délicat.
D'accord, très bien. Alors moi, je reviens sur cette question de poste. Alors, une question dans ce sens. On entend que cette fameuse fiche descriptive qui cerne, délimite les tâches allouées aux salariés, ne répond ni plus ni moins qu'à la forme, que tout cela est du blabla, et passez-moi l'expression, que le terrain, la réalité ne recoupe en rien le papier, qu'un salarié, lui, serait demandé bien plus que de s'astreindre aux seules tâches officielles. Dites-nous tout sur ce sujet. Est-ce que la fiche répond à la pratique, au travail sur le terrain?
Comme je vous ai dit, Hicham, donc, moi je parle à partir de mon propre vécu, de mon expérience, de ce que je vois. Après, il y a toujours une exception à la règle et il ne faut pas généraliser. Donc moi ce que je dirais, comme je suis responsable qualité, donc je mets en place les fiches de fonction des salariés dans la direction dans laquelle je suis. Et donc, c'est vrai que des fois, on se confronte à une fiche de fonction qui ne correspond pas forcément à ce que fait la personne en réalité. C'est-à-dire, il y a des chevauchements dans les tâches, mais ça dépend. Si vous avez assez de ressources pour faire le travail, donc la fiche de fonction va forcément relater la réalité. Si vous manquez de ressources et que la personne peut assurer une tâche en plus de ce qui est décrit dans sa fiche de fonction, eh bien, il le fait. Et puis, ça dépend des personnes. Il y a des personnes à qui on va demander de faire une tâche qui ne relève pas de sa fiche de fonction et il va refuser. Il y en a d'autres qui veulent apprendre et qui veulent donner le meilleur de moi-même, qui ne veulent pas avoir des conflits avec les supérieurs. Donc, ils vont faire la tâche et puis c'est tout. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ça dépend des contextes, ça dépend des personnes, ça dépend de la fiche de fonction, comment elle est déjà établie auparavant. Des fois, on établit les fiches de fonction avant que la personne ne vienne. C'est-à-dire pour la première fois, par exemple, et la fiche de fonction peut être très limitée. Et quand on vient dans le contexte du travail, on se retrouve avec des choses qu'il faut que la personne fasse et qui, normalement, doivent relever de ses fonctions, mais qui ne sont pas déjà tracées. Voilà. Donc, je pense que, comme je vous ai dit, ça dépend des personnes et des situations et des directions. Voilà.
D'accord. Alors, maintenant que nous avons abordé les problèmes, essayons d'aborder les solutions. Alors, partant de vous, jeune Marocaine patriote que j'estime, et j'ai souvent l'œil bon pour cet ordre de choses, que j'estime donc porter ce cher Maroc en son cœur. Pour vous, jeune patriote, que pensez-vous être les obstacles à lever pour mettre le jeune Marocain, vous, moi et tout autre, au service du service public? Voilà une expression alambiquée, mais vous avez compris. Au service donc d'un patrie, quelles sont ces entraves à lever pour le bon fonctionnement de la chose publique? Que faut-il changer? À quoi faut-il remédier?
Je trouve que c'est une bonne question, Hicham. C'est vrai que la fonction publique, il faut dire qu'elle a évolué depuis le temps. Ce n'est plus la fonction publique qu'on connaît depuis il y a très longtemps. Donc, surtout maintenant avec comme je vous ai dit, par exemple, une société publique, c'est une société qui est semi-étatique. Donc, c'est une société qui a essayé de prendre les avantages du privé et avec l'enceinte du public, qui a essayé de
s'inspirer.
Exactement, de s'inspirer des deux. Moi, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer d'assouplir les procédures administratives davantage. Donc, c'est un frein, que ce soit pour le salarié lui-même, que ce soit pour le top management. Il faudrait revoir le système de rémunération et d'évaluation afin d'atteindre les objectifs. Donc, ça serait bien de revoir ce système de rémunération administrative qui se base sur l'ancienneté et qui n'a rien à voir avec la performance, avec le rendement. Donc, ça serait bien qu'on se focalise sur ce que le jeune salarié fait, sur sa performance, sur son rendement. Il faudrait qu'on établisse des objectifs à l'avance sur lesquels il doit s'aligner et qu'il doit réaliser. Voilà. Il y a aussi...
il y a aussi, il faudrait outiller le, je dirais qu'il faudrait outiller la fonction RH pour qu'elle accompagne l'évolution des métiers et des carrières. Parce que on n'a pas un plan de carrière, par exemple, dans le secteur public. C'est très rare où tu trouves un établissement public où il y a un plan de carrière derrière. Voilà. Il faut aussi, je dirais, il faut aussi se focaliser sur, sur les formations des personnels, que ce soit la formation initiale ou continue. Donc, c'est vrai qu'on manque beaucoup en formation. Si on compare, moi, quand je me compare aux banques ou bien au secteur privé, moi, je vois que j'ai des amis, j'ai des collègues qui sont autant en formation, qui se forment tout le temps. Et c'est l'entité qui les forme. Donc ça, c'est très important pour évoluer. Il faut toujours se former, il faut toujours... c'est une sorte de levier. Ça permet de monter en compétences, de gagner en expérience, en savoir-faire. Donc, c'est très important, les formations. Donc, ça, c'est un volet qui manque, je dirais, au secteur public. Voilà. Et aussi, ça serait bien qu'on donne une marge d'autonomie aux agents et au management. Donc, qu'on leur donne des budgets pour qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes, pour qu'ils puissent récompenser les personnes qui travaillent, qui sont ambitieux. Donc, ça serait bien. Et je dirais aussi, une dernière chose, ça serait bien qu'on forme aussi les managers. Ça, c'est très important. Il faudrait bien former les managers à être intègres, à être sérieux, à donner l'exemplarité pour leurs équipes. Vous savez, tout est dans le leadership. Si on a un bon leader, moi, je dis toujours, pour moi, je trouve qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur de ses équipes. Donc, si tu as en face de toi un bon manager, c'est sûr qu'il fera des merveilles. Donc voilà, il faut se focaliser aussi sur... Il faut donner les postes de responsabilité à des personnes qui sont responsables, qui sont intègres, qui sont sérieux et qui s'y connaissent en management. Parce que c'est clair que c'est difficile. Le plus dur dans chaque travail, c'est l'être humain. Voilà. Donc c'est très difficile de manager les humains et pour ça, il faut être outillé pour ça. Donc voilà.
Cool. Alors très bien, jusque-là nous avons évoqué les problèmes, les solutions, mais il faut bien que quelqu'un les mette en exergue, ces solutions. Alors, et nos responsables politiques et autres, ayant la main longue, comme on dit, et le verbe haut, pouvant agir en alliant efficacité, agilité, sur ce sujet et en kikinant comme une épine au pied, pensez-vous qu'ils font assez? Sinon, font-ils le nécessaire, nos responsables?
Comme je vous ai déjà dit, Hicham, y a une grande différence entre vouloir et pouvoir. Donc, tu as beau avoir un responsable intègre, sérieux, responsable, qui veut changer le monde, qui a des idées visionnaires, qui est ambitieux, qui... Voilà, quand il est confronté à un système rigide, limité, quand il n'a pas une marge d'action, une grande manœuvre, quand il a les mains liées, il ne peut rien faire, croyez-moi. Donc, ça ne dépend pas que du petit manager. Ça dépend aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait essayer d'assouplir les procédures administratives. Ça ne peut qu'être dans le bien de tous. Donc voilà.
Très bien. Alors, je veux nous situer, vous et moi, par rapport à ce secteur privé tant flatté, à ce secteur dit rival. Pensez-vous que, je présume que c'est là votre référence, que vous avez de vos connaissances qui y sont, dans le secteur privé, et qui s'y retrouvent peut-être. Quel regard portez-vous donc sur ce secteur-là, pardon?
Personnellement, je pense que... C'est une chose que je voulais dire dès le départ et maintenant vous m'avez donné la chance de le dire, c'est que comme une personne, c'est-à-dire moi j'ai déjà 8 ans d'expérience donc je commence déjà à avoir un certain recul par rapport aux jeunes novices qui viennent de sortir des écoles et qui n'ont pas encore entamé la vie du travail. Donc moi je leur conseille de commencer par le secteur public, privé, pardon, s'ils ont l'opportunité. Parce que d'après ce qu'on voit, ce qu'on écoute et d'après l'expérience de plusieurs gens, le secteur privé, il accompagne les jeunes dans leur première entrée dans le monde du travail, contrairement au secteur public qui, y a le, quand on sort de l'école, on est motivé, on veut faire des merveilles, on veut changer le monde. Et c'est vrai que des fois, on se confronte à une réalité qui est tout autre dans le secteur public. On est face à des mentalités qui sont un petit peu anciennes, on est face à une, on a face à nous une résistance au changement. Donc, ça pousse la personne à se renfermer sur elle, voilà, ça c'est démotivant. Mais par contre, dans le secteur privé, on accompagne ces nouvelles recrues, voilà, dans leur premier pas. Il y a aussi un autre point, je dirais, dans le privé, donc il y a les salaires qui sont plus attractifs que le secteur public. C'est vrai qu'il y a moins de stabilité en matière de sécurité. Donc là encore, c'est un choix, ça dépend des personnes. Et puis le privé est plus intéressant dans le sens où il y a des emplois qui sont plus intéressants, des postes qui peut-être ne figurent pas dans les directions publiques, dans les établissements publics. Voilà, donc ça dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer le public pour sa stabilité. C'est clair qu'il y a des avantages dans le public. Ça dépend des profils des personnes. Donc, voilà. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Eh ben, c'est très bien. Vous avez raison. Alors, dites-moi pour clore. Je vais vous demander trois questions ou trois messages pour nos responsables politiques ou autres, pour toute autre personne que vous estimez à même de remédier à ce mal, à laquelle la responsabilité incomberait par ricochet, par un moyen ou par un autre. Quels sont vos messages ou vos questions?
C'est vrai qu'il faut... Le but de notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas juste de relater les problématiques, mais c'est plutôt pour chercher des solutions et pour faire avancer les choses, comme on dit. Donc, moi, je dirais qu'il faut revoir les procédures administratives, essayer de les alléger au maximum. C'est vrai que je ne dois pas nier que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction publique et les établissements publics, ils ont fait des avancées, ils font des efforts dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, personnellement, je travaille dans la qualité. C'est un métier qui est nouveau pour les secteurs publics. Donc, c'est le fait de certifier, le fait de chercher la certification, des labels, le fait de mettre en place des procédures, d'organiser un travail. D'essayer de travailler de manière bien arrangée, de chercher les problématiques, les risques, tout ça, c'est des trucs qui sont très bien, qui ne relevaient pas forcément de la fonction publique. Donc voilà, on s'améliore avec le temps, mais c'est vrai qu'il faut faire plus d'efforts, que ce soit dans les procédures administratives, que ce soit dans le volet RH. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait bien outiller le volet ressources humaines, mettre en place des plans de carrière, avoir une visibilité sur l'évolution des personnes. Tout ça, c'est dans les stratégies, dans les feuilles de route qu'il faut mettre en place. Donc c'est plutôt, ça relève du pilotage. Voilà. Faire plus de formation pour les jeunes, essayer de les accompagner. Ça, c'est très important. Donc, pour ne pas les laisser patauger, surtout quand on sort d'un système, d'une école avec toutes les notions théoriques, on n'a pas assez de recul d'expérience. Donc, ça encore, c'est un problème qu'on a dans les écoles, c'est qu'on n'a pas forcément, on nous enseigne pas un volet expérimental, pratique. Donc, c'est beaucoup plus de notions théoriques. Et quand tu viens là dans le monde de travail, tu te retrouves face à un monde nouveau ou dans lequel tu patauges si tu n'es pas bien encadré. Donc, et c'est là où ça joue sur le moral, sur la démotivation, sur la dépression. Donc ça, c'est important. Il faut bien accompagner les jeunes quand ils sont recrutés. Et revoir, bien sûr, la rémunération. Ça, c'est très important. Revoir les... le volet rémunération, il faudrait que l'évolution, il faudrait que le statut et l'évolution de la personne va en même, dans la même direction que la rémunération. Voilà. Donc, il faut beaucoup plus viser la performance et le rendement du salarié que le fait qu'il doit se conformer aux lois et aux procédures qui sont mises en place. Parce que des fois, tu as un salarié qui est dans la fonction publique, qui fait juste son travail, qui n'ajoute rien. Et comme je vous ai dit, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui se retrouvent dans la routine, qui n'ont pas d'ambition. Donc, et là, on se retrouve avec une personne qui a le même salaire qu'une personne qui fait beaucoup plus, qui fournit plus d'efforts, qui travaille sur elle-même. Donc, il y a une certaine injustice de ce côté-là. Voilà, c'est frustrant et des fois, c'est voire même injuste. Donc, ça serait bien qu'on rémunère les personnes qui font plus d'efforts et qui veulent évoluer. Voilà.
Très bien. Donc, Esnal Rezouani, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission Entre nous. Et on vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup, c'est Hicham. Merci pour l'invitation. J'ai passé un moment agréable avec vous et je trouve que le sujet que vous avez abordé aujourd'hui répond à des problématiques que nous, jeunes, subissons au quotidien. Donc j'espère qu'à travers vous, à travers des personnes comme vous, on finira par trouver des solutions et faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Hicham.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Merci.